Chapitre 11. Je n'ai jamais été particulièrement douée en sport au lycée, mais si j'avais réussi un aussi joli lancer, c'est certain, j'aurais obtenu une mention au bac. Course d'approche parfaite, impulsion admirable, trajectoire idéale et impact au-delà de tous mes espoirs. Dans la nuit, d'une berge à l'autre, j'ai entendu un gros poc, instantanément suivi d'un couinement de jouet pour chien sur lequel quelqu'un aurait marché. Le type s'est effondré comme une masse. Bingo, Toto! Ma joie n'a cependant pas duré. En une fraction de seconde, la rage qui m'animait s'est évaporée et la panique a pris la place. Toute la place. Dans la nuit, je l'appelle de loin. Monsieur? Monsieur? Eh oh, toi! Aucune réponse. Je n'aperçois même pas son corps dans l'herbe. En catastrophe, je traverse la passerelle sur l'écluse. Je me tiens à la rambarde et je fais gaffe où je mets les pieds parce que si en plus je trébuche, j'imagine déjà les gros titres de la presse régionale. Il se prend une boîte de conserve, elle tombe de l'écluse comme un polichinelle. Bilan, 2 morts. La police hésite quant au mobile, mais la cause du double décès est officiellement attribuée à la stupidité qui n'a toujours pas été appréhendée. Le souffle court, je bondis sur l'autre berge. Je me précipite à sa recherche en prenant garde parce que j'ai peur de lui marcher dessus dans l'affolement. Je ne suis pas longue à le localiser. Il est étendu de tout son long, inerte. Jean délavé et épaisse chemise à carreaux. Je ne distingue pas bien ses traits. Je m'approche mais sans oser le toucher. L'idée m'effraie. Je m'agenouille près de lui et murmure, tremblante. S'il vous plaît, est-ce que tu m'entends ? « Dis quelque chose !» Aucun signe de vie. L'anxiété me donne des convulsions. « Je suis désolée, je ne voulais pas. » La voix qui parle en moi à la bouche pleine me souffle.
« Bien sûr que si, tu voulais. C'est d'ailleurs très réussi. »
Je m'en veux tellement. Je vous l'avais dit, lorsque je souhaite vraiment quelque chose, souvent ça arrive. Bravo ma pomme. Maintenant, ce que je voudrais plus que tout, c'est qu'il se réveille et qu'on éclate de rire ensemble comme une belle bande d'abrutis que je suis. Désespérée, j'attrape une brindille et lui gratte la joue avec. Pas la moindre réaction. Je tente de faire mieux. Avec ma badine, je lui chatouille les narines. Pas plus de résultats. Insistant un peu, je la lui appuie sur le bout du nez. De plus en plus fort. Ça lui relève l'extrémité, on dirait un groin. Je ne l'avais jamais fait à personne. Il est toujours aux abonnés absents. L'espace d'un instant, je songe à lui fouetter la figure de toutes mes forces. Qui sait, peut-être que ça le ramènerait à la vie. Il ne bouge pas du tout. Si c'est un cadavre, c'est logique. Mais s'il lui reste encore un souffle de vie, il pourrait quand même faire un effort. Surmontant ma terreur, j'attrape sa manche du bout des doigts pour soulever son avant-bras. Il retombe dans l'herbe dès que je lâche. C'est affreux. Je ne sais plus quoi faire. Je jette un coup d'œil vers la maison de l'écluse. Son locataire est-il en train de m'observer avec ses jumelles? Pourquoi ne vient-il pas m'aider? A-t-il déjà appelé les pompiers? Ou pire, la police? Je suis fichue. J'ai tué un mec avec une boîte de raviolis pur bœuf. Je me suis souvent demandé ce que j'allais devenir dans la vie. N'avais pas encore trouvé de réponse crédible. Eh bien maintenant, je sais. L'histoire retiendra mon nom comme celui de la tueuse à la boîte de conserve. Les végétariens ne manqueront pas de me citer en exemple pour dénoncer les effets néfastes de la viande. Je me penche une nouvelle fois sur ma victime, m'en approchant plus près que jamais. Il faut que je sache. Mon visage quasiment contre le sien, j'essaie de percevoir son souffle. Je crois qu'il respire encore. Que dois-je faire? Du bouche à bouche? Lui sauter à pieds joints sur la poitrine pour tenter un massage cardiaque au rythme de la musique venue de la maison? En plus, j'aime bien cette chanson. Peut-être au moins refermer sa braguette, qu'il avait commencé à ouvrir, avant que les flics n'ajoutent à mon dossier une perversion sexuelle en plus de la tentative d'assassinat. Une lueur d'espoir illumine soudain mes ténèbres. Je pourrais demander de l'aide au fêtard. La voix intérieure interrompt à nouveau son repas pour me hurler.
Espèce d'andouille. Si tu fais ça, tu auras 50 témoins de ton forfait. Crunch, crunch.
Mais que peut-elle bien manger? Je dois réfléchir vite. Encore faudrait-il que j'en sois capable. Ma raison vacille. Je vous jure que j'essaie d'aligner des pensées cohérentes, mais la seule chose qui me vient, c'est une comptine. Une souris verte, la braguette ouverte, parce qu'elle allait faire pipi, je lui jette des raviolis, youpi ! Amandine, bordel, ressaisis-toi. Dans un premier temps, mes trois neurones de permanence estiment raisonnable de planquer le corps derrière le bosquet tout proche pour éviter de me faire repérer. D'accord. Mais par où je l'attrape ? Par les pieds, les bras ? Je le traîne par les cheveux ? Je suis tétanisée à l'idée d'un contact physique avec celui que j'ai peut-être tué. Je n'ai jamais touché de cadavre. J'ai des frissons de répulsion. En désespoir de cause, je considère son épaisse chemise comme ma meilleure option. Je glisse ma main sous sa nuque en lui empoignant le col. Il a les cheveux bien plus doux que les poils du chien qui sait ouvrir les portes. Je tire sur son vêtement, un peu, beaucoup, passionnément. Il ne bouge pas d'un millimètre. C'est l'enfer. C'est certainement une question de frottement du corps sur le sol. Ce n'est que de la physique, comme nous le répète régulièrement Alix. Je m'y recolle de toutes mes forces, par à-coup. Le bougre est aussi lourd qu'un mort. Scrogneux, pourquoi je pense à ça ? Pas le choix, je dois réussir. Je songe aux Égyptiens et à leurs pyramides. Des milliers de blocs transportés sur des centaines de kilomètres. Une merveille du monde. Et moi, je galère avec un seul bonhomme. Il me faudrait des rondins de bois pour le faire rouler dessus. Ou alors des esclaves. D'ici, on entend plutôt bien la musique, mais pas assez fort pour couvrir le craquement de la chemise qui cède brutalement alors que je tire dessus comme une mule. Je tombe sur les fesses, le col et la moitié du dos me restant dans les mains. Là, tout de suite, je suis prête à donner tout ce que je possède à des lutins qui sortiraient des buissons pour venir à ma rescousse. Pour plaider ma cause, j'expliquerai simplement que je suis une chic fille avec les fesses trempées par l'herbe qui ne sait pas quoi faire d'un mec inconnu que j'ai assommé avec de l'élan, un soupçon de préméditation et une préparation culinaire italienne contenant de la sauce tomate. De surcroît, je viens de lui arracher sa chemise. À mon corps défendant, messieurs les juges, elle n'était pas aussi solide qu'elle en avait l'air. Par pitié, les lutins, aidez-moi. Je tremble. De peur, d'épuisement nerveux, j'ai envie de hurler. Mais je dois me taire parce que si les jeunes d'à côté découvrent ce qui se passe, je serai définitivement perdue. À la guerre comme à la fête, j'agrippe ma victime par les poignets et tire le plus fort possible. Il pèse son poids. En me cassant les reins, j'arrive à le déplacer peu à peu. Chaque centimètre gagné est une victoire. Je suis tellement en stress qu'à un moment, je lui reproche quand même de ne pas m'aider. Je lui parle, je m'excuse, je le menace. Et j'avance moins vite qu'un escargot. Lorsque enfin je réussis à l'amener près du massif qui peut nous dissimuler, je suis épuisée. À bout de force, je m'assois auprès de lui et dans un geste que je ne m'explique pas, comme si ça pouvait l'aider à aller mieux, j'installe sa tête sur ma cuisse. La presse va s'en donner à cœur joie. Saisi par le remords, le bourreau témoigne enfin un peu de compassion à sa victime. Je vais faire la couverture de aurait mieux fait de réfléchir avant. Le bimestriel sur les grosses bourdes avec ses célèbres fiches conseils. Comment ai-je pu en arriver là ? En une semaine, mon passé s'est effondré et avec ce type sur les bras, mon avenir est désormais compromis lui aussi. Même s'il n'y est pour rien. Sans m'en rendre compte, je commence à caresser son front. Délicatement, de plus en plus librement. Sentir sa chaleur me fait du bien et me rassure. Mes doigts se glissent dans ses cheveux courts. Je palpe quelque chose. Dans l'obscurité, j'ignore si c'est l'humidité de l'herbe ou son sang que j'ai sur les mains. Quelle épouvantable situation. Jamais avant ce soir, je n'avais eu à ce point envie de m'en prendre physiquement à un garçon. Sans doute la conséquence d'une semaine qui m'a portée à ébullition. Il a certainement payé plus que sa part. Si on éliminait tous les mecs qui pissent partout, la terre ne serait plus peuplée que de femmes et d'oiseaux. Son corps est là, étendu de tout son long. Me voilà à présent dans un état incohérent. De toute ma vie, je n'ai eu si peur pour un garçon alors que j'ignore tout de lui. Pire, je crois que pas une fois dans toute mon existence, je n'ai tremblé aussi fort pour quelqu'un. Je parcours les courbes de son visage. Bien qu'ayant déjà vécu en couple, cette façon de toucher un homme est pour moi inédite.
Il faut dire que les autres étaient conscients.
Je me souciais plus de leur ressenti que du mien. Alors que là, tout de suite, je laisse mes doigts vagabonder instinctivement avec un naturel inhabituel.
Amandine, qu'est-ce que tu fiches ? Arrête de jouer avec la tête de ce type !
C'est affreux. Je fais des expériences sur un presque mort. Je me répugne. Je m'imaginais pourtant bien oser cela avec un homme, mais en ayant vécu des années de complicité et en partageant une belle histoire d'amour, pas après lui avoir balancé une boîte de raviolis et avoir traîné son corps inanimé en pleine nuit. Pour le protéger du froid, je couvre son torse débraillé avec mon blouson. Que dois-je faire à présent ? Appeler les secours, même si cela doit me coûter ma liberté ? Si ça se trouve, on peut encore le sauver. Malgré l'importance de l'enjeu, je n'en ai pas la force. Rester auprès de lui et le caresser constitue le mieux que je puisse faire. Très tard dans la nuit, j'ai entendu la fête se terminer. Fini la musique. Quelques voix au loin, les voitures qui redémarrent. Puis le silence. L'obscurité complète. La température baissait de plus en plus, mais cela n'avait aucune importance. J'étais tout entière focalisée sur lui. Tant que je sentais sa chaleur, cela prouvait qu'il était encore de ce monde. C'est ainsi que j'ai entamé la nuit la plus longue, la plus délirante et la plus flippante de ma vie. Aucune idée de ce que le destin ferait de moi lorsque le soleil se lèverait à nouveau. L'occasion de dresser l'inventaire de tout ce qui me donne des raisons d'espérer ou de paniquer. Les stocks de peur peuvent remplir des hangars, alors que l'espoir tient dans un dé à coudre.